comme je vous ai mentionné, au Congrès national de nos églises à Hamilton cette semaine, puis c'est toujours édifiant, puis ça nous permet souvent d'avoir une vision un peu plus large que juste notre chez-nous de l'œuvre de Dieu, puis de notre mouvement d'église à travers le Canada. Le Fellowship, que l'on appelle, ou l'Association d'Églises Baptistes Évangéliques au Canada, elle compte 500 églises. D'un bout à l'autre du Canada, du Yukon en Nouvelle-Écosse, 80 000 personnes en général se rassemblent le dimanche matin dans nos églises de notre association. Et ça se fait ça dans 13 langues différentes, dont le français, imaginons. Au Québec, 78 églises sont de notre association au Québec et célèbrent Dieu en français. C'est beau, c'est le fun. Mais pourtant, selon nos statistiques, le nombre d'églises locales au Canada n'a pas augmenté en 10 ans. Ça fait 10 ans que ça plafonne autour de 500. Alors qu'en 1950, au Canada, les protestants évangéliques comptaient pour 25 % de la population, ils ne comptent plus maintenant que pour 12 % de la population. Au Canada, seulement 12 % de la population s'affiche protestant évangélique, chrétien évangélique, alors qu'en 1950, il y en avait 25. Et certainement qu'au Québec, il doit en avoir beaucoup, beaucoup, hein, vous le savez. Au Québec, on compte moins de 1 % en réalité, 6 dixièmes de 1 % au Québec se présentent comme protestants évangéliques selon Statistique Canada. Selon Statistique Canada aussi, seulement 20 % des Canadiens affirment fréquenter régulièrement une église. Seulement 20 % des Canadiens disent « Moi, je fréquente régulièrement une église ». Selon Statistique Canada, fréquenter régulièrement une église signifie aller à l'église une fois par mois. Le Canada a besoin d'être visité à nouveau par l'Esprit de Dieu. Notre Canada a besoin d'être touché à nouveau par la main de Dieu. Et ce besoin de revitalisation, il n'est pas unique juste au Canada, il est aussi nécessaire chez nous. Comme j'ai mentionné, moins de 1 % d'évangéliques habitent au Québec. Nous aussi, on chante pour le Seigneur, mais on a vraiment besoin d'être touché par Dieu. Nous aussi, la notion de fréquenter régulièrement une église évangélique, quand je me suis converti en 1976, aller régulièrement à l'église, ça voulait dire 3 rencontres par semaine. Ça voulait dire dimanche matin, dimanche soir, mercredi. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça signifie davantage 3 rencontres par mois. Ou encore, chez certains. On délaisse la prière en communauté. On a des belles bergeries le mercredi. On a une grande population ici, mais quelquefois, on les compte sur notre main, là, dans les bergeries ou dans des rencontres, d'autres rencontres. La prière en communauté. On sort d'ici, puis on a de plus en plus perdu le fardeau des âmes perdues. On loue le Seigneur de sa grâce, de son salut, on le chante, ça touche mon cœur, ça touche le vôtre, je suis tellement content. Mais on sort, mais on oublie que mon voisin à côté, lui, il n'a pas ce privilège-là, puis il s'en va dans l'éternité sans Dieu. On a perdu graduellement notre fardeau des âmes perdues. Et notre zèle pour les atteindre diminue aussi. Vous savez, cette semaine, il y a 2 semaines, il y avait Mgr Ouellette qui partageait son témoignage au sujet des accommodements raisonnables. Puis, je dois dire que je suis en plein accord avec le constat de Mgr Ouellette à la commission Bouchard-Taylor lorsqu'il dit que le Québec est dans un vide spirituel parce qu'il a délaissé ses valeurs religieuses. Lui a employé la valeur religieuse catholique, moi je dirais valeur judéo-chrétienne, mais le Québec est dans un vide spirituel, je suis tout à fait d'accord. Nous vivons un moment de crise spirituelle. Pas parce que nos poches sont vides puis qu'on est menacé d'extinction par la société qui nous écrase, pas parce que on n'est plus capable d'exprimer notre adoration au Seigneur, pas parce que on n'a pas d'argent dans nos poches, on n'a pas de char pour se déplacer, mais on vit une crise, un moment de crise spirituelle dans laquelle notre société est devenue majoritairement laïque et laïcisante. Et elle cherche à enlever totalement Dieu de la place publique et de la vie quotidienne des citoyens. Ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Ésaïe chapitre 1. La société dans laquelle Ésaïe vivait ressemblait beaucoup à la nôtre. Ésaïe, c'est un prophète qui était appelé par Dieu et qui a commencé son ministère l'année de la mort du roi Ozias. Ce roi Ozias, c'était un roi de Juda qui a eu un règne qui était prospère pendant 52 ans. C'est un des plus grands rois, des rois qui a eu le plus long, un des plus longs règnes, 52 ans. Ozias, il a marché avec Dieu et Dieu l'a béni. Dans sa marche avec Dieu, Dieu l'a béni et Dieu l'a rendu absolument prospère. Pourtant, la prospérité matérielle du peuple d'Israël du temps d'Ozias a conduit le peuple au déclin spirituel, à la corruption. De sorte que quand les Israélites se rencontraient pour célébrer Dieu, Dieu a été amené à avoir en horreur la religiosité extérieure du peuple et le vide de marche avec lui jour après jour. Il a commencé à avoir en horreur cette religiosité. J'aimerais vous lire le chapitre 1, les versets 10 à 18. Il dit « Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. » Ça faisait longtemps que Gomorrhe et Sodome étaient disparus. Là, il emploie ces villes-là pour mentionner un peu le caractère moral qui était répété dans la nation d'Israël. « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes, j'en ai en horreur. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge, je ne suis là des supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Le peuple d'Israël du temps d'Ésaïe, d'Ozias, avait décliné spirituellement. Même le roi Ozias a terminé ses jours en exclusion à cause de la lèpre que l'Éternel lui a apportée, lui a donnée en jugement. Lorsqu'il a voulu offrir lui-même des sacrifices, des parfums, dans le temple, à la place des sacrificateurs. Oh, j'aimerais vous lire rapidement 2 Chroniques 26 et versets 15 à 21. Ça parle de Ozias. Ozias est un roi prospère, il a grandi. Mais à un moment donné, sa prospérité l'a fait considérer lui-même comme étant capable de faire n'importe quoi, être au-dessus de n'importe quoi, pas être obligé de suivre les principes de Dieu parce qu'il était sécure dans son matérialisme. 2 Chroniques 26, 15, ça dit à la fin du verset 15, « Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui. » Avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, homme courageux, je comprends. Le roi voulait offrir lui-même les parfums, puis le sacrificateur arrive avec 80 autres qui s'opposèrent au roi Ozias et lui dirent, « Tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché. » Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'emparera d'Ozias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portaient les regards sur lui. Et voici, il avait la lèpre au front. ils le mirent précipitamment dehors. Et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Ozias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il était exclu de la maison d'Éternel. Et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Ozias, lui aussi, la prospérité a contribué aussi à son déclin spirituel. Et l'Éternel a suscité Ésaïe pour parler à son peuple à ce moment-là. L'Éternel a parlé à Ésaïe d'abord pour son salut. Et après ça, pour qu'il soit un prophète, pour faire une différence pour Dieu dans sa génération à lui. Et nous aussi, l'Éternel nous a appelés personnellement au salut en Jésus-Christ. J'aimais l'adoration ce matin où on était rappelé de à quel grand prix on était racheté. Dieu vous a appelé personnellement en Jésus-Christ. C'est la première rencontre qu'il veut que vous ayez avec lui. Il veut pardonner vos péchés si ce n'est pas fait. Il veut vous donner sa justice. Il veut vous sauver, il veut vous rendre différent, il veut vous faire partager l'éternité avec lui. Vous avez besoin d'être sauvé si vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez pas rencontré personnellement Jésus comme sauveur et Seigneur, vous avez besoin de le faire, tardez pas. Mais ça, c'est la première rencontre initiale qu'on a besoin d'avoir. Nous aussi, on a été appelés à rencontrer personnellement Jésus pour notre salut. Mais il nous appelle aussi, comme Ésaïe, à avoir un impact réel sur notre prochain. Et pour être utile à l'œuvre de Dieu, Ésaïe, comme nous, devons passer par un moment décisif de crise, un moment de confrontation personnelle et transformatrice avec Dieu. On a encore ce besoin ce matin de réaliser justement notre besoin d'être touché à nouveau par Dieu, pour être à nouveau passionné de lui, être à nouveau passionné de son plan pour nos vies. Et j'aimerais qu'on regarde dans Ésaïe chapitre 6 ce matin, les éléments d'une crise de revitalisation divine que Ésaïe a connue et que Dieu voudrait que nous connaissions nous aussi. Je vais lire Ésaïe, le chapitre 6 au complet, mais d'abord je vais demander la grâce de Dieu pour que Dieu parle à nos cœurs par sa parole. Seigneur Dieu, merci encore d'appeler des hommes et des femmes dans chaque génération à te rencontrer personnellement pour leur salut, mais aussi, Seigneur, à transformer leur relation intime avec toi dans une vie qui brille dans la société, qui a un impact autour, que d'autres personnes voient Jésus à travers nos vies. Merci Seigneur d'avoir suscité des gens à Beauport pour refléter ta grâce, ton amour autour d'eux. Et je veux te prier, comme pour Ésaïe, tu puisses nous rencontrer à nouveau, nous transformer, nous donner une vision de ton plan, de ta mission pour nous, afin Seigneur que nous puissions marcher dans tes voies, et Seigneur Dieu, avoir une influence comme Ésaïe a eu dans sa génération. Seigneur, bénis ta parole ce matin, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Ésaïe chapitre 6. L'année de la mort du roi Ozias, c'est le roi qu'on vient de parler. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient autour de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi. » Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va. » Et dit à ce peuple, « Vous entendrez, vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les maisons, que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Ils reviendront pour être la proie, et s'il reste encore un dixième des habitants, ils reviendront pour être la proie des flammes. Mais, comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. J'aimerais qu'on puisse regarder ensemble cette expérience revitalisante de rencontrer Dieu que Ésaïe a fait. C'est fait, Ésaïe nous dit, l'année de la mort du roi Ozias. L'année de la mort du roi Ozias, le trône d'Israël était vide. Et Ésaïe entre dans le temple, j'imagine, et il prie Dieu, et Dieu lui donne la vision. L'année de la mort du roi Ozias, où le trône terrestre était vide, il voit le trône céleste occupé de manière glorieuse par le Dieu du ciel. Le trône terrestre était abaissé. Le roi est mort. Mais l'Éternel était toujours sur son trône. Et son trône, nous dit, c'était un trône très élevé. Son trône de puissance était élevé, son trône de gloire. Le roi Ozias était mort, mais le grand roi, il dit au verset 5, « Mes yeux ont vu le roi, pas le roi Ozias, ils ont vu l'Éternel des armées, le roi, lui, le roi des rois, était bien vivant, au contrôle de l'univers, au contrôle de son peuple. » Ésaïe a commencé par voir Dieu. Lui n'avait pas débarqué du trône. Lui était encore en contrôle, même si ces situations de Ésaïe pouvaient être difficiles. Il regarde dans le ciel, il voit des anges qui admirent l'Éternel, des anges qui adorent l'Éternel pour sa sainteté, sa souveraineté, sa puissance. Dans l'éclat de sa beauté, dans la sainteté de l'Éternel, les séraphins, ça n'a rien à faire avec le film que ceux qui sont un peu plus âgés ont vu, séraphins. Les séraphins sont les anges les plus proches du trône de l'Éternel qui proclament continuellement sa gloire, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Mais les séraphins, ces anges glorieux qui entourent la présence de l'Éternel, ils se cachent la face devant la sainteté de l'Éternel, ils se cachent les pieds et ils proclament la sainteté de l'Éternel, sa gloire, sa majesté, par des voix qui retentissent. Les portes du temple étaient brassées par cette exclamation des anges qui regardent le Seigneur. Saint, Saint, Saint! Dieu est infiniment plus élevé que les anges, est tellement plus élevé et glorieux et saint comparativement à nous, les êtres humains. Dieu est infiniment plus élevé, séparé des pécheurs. Et Ésaïe a dit, j'ai vu le Seigneur. Malheur à moi, j'ai vu le Seigneur, j'ai reçu un petit éclat de sa gloire. Oh, je prie que pour moi, comme pour vous, on puisse voir Dieu comme ça. On puisse voir Dieu élevé, souverain, glorieux, saint, majestueux. Plus je vais contempler la beauté de l'Éternel, plus je vais vouloir marcher avec lui. Mais il va arriver quelque chose avant ça. Plus je vais contempler la beauté de l'Éternel, plus je vais voir mon indignité personnelle, ma marche tout croche, mon cœur divisé. Et si Dieu lui a donné une vision de sa sainteté et de sa souveraineté, ça lui a donné l'occasion à Ésaïe d'avoir une vision réaliste de lui-même. L'admiration de la sainteté de Dieu a amené Ésaïe à la conviction de sa propre condition spirituelle. Malheur à moi, il dit, je suis perdu. Je suis quelqu'un que les lèvres impures. Il est convaincu de son péché. La vision de la grandeur, de la dignité, de la sainteté de Dieu a amené la conviction de son indignité devant Dieu. Hier, on était au chalet avec le conseil de l'Église et on regardait, par exemple, Luc, Pierre. Quand Dieu a appelé Pierre, ça a fait pareil. Il a multiplié les poissons. Pierre avait travaillé toute la nuit. Luc, chapitre 5, verset 8. On a travaillé toute la nuit, puis là, il n'avait pas pris, puis là, Dieu dit, tire tes filets. Vous savez l'histoire de Luc chapitre 5, puis il ramasse tous les filets, là, les poissons, il y a une pêche miraculeuse. Et en ramassant cette pêche miraculeuse, Pierre réalise, c'est Dieu qui a fait ça. Nous, on a essayé toute la nuit, puis on n'a rien pris, mais lui, on prend une pêche miraculeuse. C'est Dieu qui a fait ça. Vous vous souvenez qu'est-ce que Pierre a réagi après? Il s'est placé devant le Seigneur, il s'est mis à genoux, puis il a dit, Seigneur, retire-toi de moi, j'ai un homme pécheur. Quand on voit la grandeur, la sainteté de Dieu, on réalise comment on est loin de ça. On réalise notre péché, on est convaincu de notre péché. Je regarde Apocalypse chapitre 1, le verset 17-18, vous voyez Jean qui contemple la voix qui lui parle, puis il voit la gloire de Dieu, puis il dit, quand je fus ça, je suis tombé à terre comme mort. Et Dieu m'a relevé. L'admiration l'a amené à la conviction de sa propre condition spirituelle, puis la conviction d'indignité d'Ésaïe l'a amené à confesser son péché. Mes lèvres sont impures. Je suis pécheur. Et que la confession de nos péchés est difficile. On vient d'un système où on allait dans des boîtes pour confesser nos péchés. On ne veut plus aller là. Mais est-ce qu'on confesse encore nos péchés? Est-ce qu'on prend l'habitude de se placer devant la sainteté de Dieu puis de confesser nos péchés? Ou si on les justifie, on passe à côté? Et faire même comme Ésaïe ou comme Daniel a fait. Il dit, moi, j'ai des lèvres impures. Puis Seigneur, je suis coupable aussi pour la société à côté de moi parce que j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, qui sont comme moi, je suis pareil comme eux autres. Est-ce qu'on confesse facilement nos péchés devant le Seigneur? Ésaïe a confessé la grandeur de Dieu, l'a amené à la conviction, mais l'a amené aussi à la confession de son péché. Si Dieu est pour nous transformer, nous devons d'abord plaider coupable devant lui, réalisant que nous méritons sa condamnation plutôt que sa grâce et sa miséricorde. Quand on a lu Ésaïe chapitre 1 au départ, où Dieu disait « Je suis tanné d'entendre vos prières parce qu'il n'y a pas de réalité personnelle après ça. Vous allez dans la société, puis c'est la méchanceté, c'est le crime. » Mais il dit « Venez, venons, plaidons, dit l'Éternel. » Confessez ça. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils vont devenir comme la neige. Ils vont devenir comme la blaine. Mais confessez votre péché. Venez, plaidons ici. Plaidez coupable. Confessez votre péché. Et la confession du péché d'Ésaïe a amené le pardon de Dieu. Si nous confessons nos péchés, la Bible dit, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pour Ésaïe, cette image-là nous est communiquée à travers un de ses anges, ses séraphins, qui prend une pierre sur l'autel et qui vient et qui touche l'endroit de son péché. Mes lèvres sont impures, il touche ses lèvres. Et il dit, tu as été purifié, verset 7. Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. La confession du péché a amené le pardon de Dieu. L'expérience revitalisante d'Ésaïe a commencé par une vision de la personne de Dieu qui l'a amené à une vision réaliste de lui-même et qui va l'amener par la suite à une vision de ce que Dieu veut faire à travers sa vie, de la mission qu'il aura pour lui. La vision de l'œuvre à laquelle Dieu va appeler Ésaïe. Le pardon divin a conduit à la communion nouvelle avec Dieu. Après ça, il a pu entendre la voix du Seigneur au verset 8. J'entendis la voix du Seigneur. Le Seigneur était en communion maintenant avec Ésaïe. Il pouvait communier avec lui et lui communiquer la commission d'Ésaïe. Ésaïe pouvait maintenant entendre l'appel du Seigneur sur sa vie. Et maintenant, il pouvait s'engager pleinement dans ce que Dieu voulait accomplir à travers sa vie. « Me voici, il dit, envoie-moi. » Avez-vous reçu ce même appel de la part de Dieu? Tous ceux qui ont sauvé, Dieu dit, « Allez, allez, faites de toutes les nations des disciples. Communiquez le beau message de l'Évangile. » Puis après ça, identifiez-les, marquez-les à travers un baptême. Puis après ça, continuez. On aura, félicitations à notre frère, on aura un baptême prochainement. Marquez-les, identifiez-les comme des vrais chrétiens. Et après ça, continuez à les former, à les équiper pour qu'eux aussi continuent la mission. On a ce même appel. Est-ce qu'on répond de la même manière, par exemple? Me voici, envoie-moi. Ça, c'était la réponse de Ésaïe. La communion renouvelée a mené à la consécration et à la persévérance. Envoie-moi, dit Ésaïe. Bien qu'il soit encore conscient de sa faiblesse, Ésaïe s'abandonne au projet de Dieu pour sa vie. Il a vu Dieu, il a vu sa grandeur, il a vu sa souveraineté, il a vu sa puissance. Il s'abandonne à lui dans l'humilité. Et dans l'humilité, il rend sa vie disponible à la puissance de Dieu dans sa vie et au plan de Dieu pour lui. Va, lui dit Dieu au verset 9. Il dit alors, va. Va, mais il dit, ça ne sera pas facile. Parce que tu vas parler, puis tu vas parler jugement, puis les gens ne se détourneront pas. Le peuple ne se repentira pas à la prédication d'Ésaïe, et le jugement va venir sur Israël. Et Ésaïe, pendant sa prédication, il prêchait au nord, au sud, plutôt en Juda, le royaume du nord est parti en captivité. Le royaume du nord a goûté au jugement de Dieu. Mais Dieu a dit, je vais quand même garder un reste. Je vais garder un reste qui va croire. Je vais conserver un élément. Et tout le livre d'Ésaïe, en réalité, nous parle d'une part de ce jugement de Dieu et du salut de Dieu, à peu près dans les mêmes proportions que toute la Bible. Le livre d'Ésaïe est vraiment intéressant. C'est le livre le plus cité dans le Nouveau Testament après les psaumes. Il y a 66 chapitres. Je peux vous poser une question, il y a combien de livres dans la Bible? 66. Le livre d'Ésaïe, il y a 66 chapitres. Il y a combien de livres dans l'Ancien Testament? 39. Si vous regardez les 39 premiers chapitres du livre d'Ésaïe, il parle du jugement contre Israël. Et il y a combien de livres dans le Nouveau Testament? 66 moins 39, 27. OK. Des chapitres 40 à 66, le livre d'Ésaïe parle de salut, de libération, de beauté, de rédemption. Ésaïe, 53, fait partie de la deuxième partie du salut. Ésaïe a rencontré Dieu, a réalisé son péché, puis a été capable à ce moment-là d'être envoyé avec une nouvelle perspective pour prêcher à la fois jugement, mais aussi salut, rédemption. La vision céleste de Dieu a mené Ésaïe à une vision réaliste de lui-même pour être capable par la suite de considérer puis répondre à la vision puis à la mission de Dieu dans sa vie. Ce qui est arrivé à Ésaïe, est-ce qu'on peut en tirer un modèle pour nos propres vies? Est-ce que nous pouvons expérimenter aussi une expérience revitalisante avec Dieu? Comment le faire? Je proposerais de trois manières, de les suivre les mêmes choses qu'Ésaïe. Voir d'abord Dieu à l'œuvre au milieu de nos circonstances. Pour Ésaïe, ces circonstances étaient troublantes. Un bon roi qui finit mal et le trône est vide. Dieu, où es-tu dans cette détresse-là? Et à ce moment-là, il a été dans le temple, il s'est tourné vers le Seigneur, puis il a vu le Seigneur. Il a vu Dieu à l'œuvre au milieu de ces circonstances difficiles. Est-ce qu'on fait la même chose? Est-ce qu'au milieu de nos circonstances difficiles, est-ce qu'on voit que Dieu veut s'en servir de ces circonstances parfois pénibles pour nous rendre sensibles à sa présence, pour nous rendre sensibles à sa voix? Dans les moments difficiles, est-ce qu'on apprend à plier les genoux devant Dieu, reconnaître sa souveraineté sur tout ce qui se passe dans ma vie, lever les yeux vers lui, se placer en mode vision, en mode d'écoute? Jésus disait dans le sermon sur la montagne, Hébreux, Matthieu 5, comme Dominique devait le partager ce matin, « Heureux ceux qui ont le cœur pur. » Pas ceux qui ne sont pas sans problème, là, mais heureux ceux qui ont le cœur pur parce que ils verront Dieu. Voir Dieu au milieu de nos circonstances. Voir aussi le caractère de Dieu pour réaliser notre besoin. Qu'on puisse prendre le temps de contempler Dieu. C'est comme ça qu'on va réaliser qu'on a besoin de lui. En nous tournant vers Dieu, Dieu nous montre sa grandeur, son amour, sa puissance et comment nous sommes loin de lui ressembler. Et il nous montre comment nous approcher de lui, comment avoir le pardon. La lumière divine manifeste notre péché. La lumière divine nous montre, nous donne soif de lui. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 20, « Quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Mais celui qui s'approche de Dieu, qui s'approche de la lumière, Dieu manifeste son péché et l'invite à s'en débarrasser. Et pas juste l'invite, l'aide peut le pardonner s'il confesse ses péchés. Voir le caractère de Dieu, ça va nous amener à réaliser notre besoin de Dieu. Et voir aussi dans notre communion avec Dieu, notre place dans le plan de Dieu. Quand Ésaïe s'est approché de Dieu puis qu'il y a eu une communion, un pardon avec Dieu, Dieu lui a montré qu'est-ce qu'il voulait faire dans sa vie. Et là, il pouvait s'engager avec joie. Mais c'est dans notre communion avec Dieu que Dieu va nous placer, va nous montrer son plan pour nous. En s'approchant de plus en plus du cœur de Dieu, Dieu va ouvrir son cœur pour nous utiliser dans son œuvre. Dans la communion avec Dieu, Dieu nous donne de l'espérance. Dans sa communion, Dieu nous valorise en nous montrant comment on peut être utile. En sa compagnie, dans son plan, il faut s'approcher de Dieu. Cette semaine, en préparant, je pensais à la reine Esther. La reine Esther, vous connaissez ce livre d'Esther avec Mardoché. Et Mardoché dit à sa nièce, je pense, qui était devenue reine, il dit, « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenue à la royauté? » Ton environnement, tes circonstances, l'endroit où tu es, ce que toi tu es, sais-tu que Dieu t'a placé là à un moment précis, à un temps précis, à un lieu précis, parce qu'il veut se servir de toi? C'est pour ça que tu es là. Et Esther, elle dit, priez pour moi. Puis elle dit, moi aussi je jeûnerai. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. J'ai vu le plan de Dieu pour moi, puis je suis prêt à avancer dans le plan de Dieu coûte que coûte. Parce que j'ai vu la puissance de Dieu, sa souveraineté, sa sainteté. Dieu nous montre son plan et étend notre vision. Et ça nous amène à évaluer alors notre disponibilité, à évaluer notre engagement dans son plan. Dieu dit, va, dis à ce peuple. Ce qui demande de moi, c'est l'obéissance. Ça, c'est ma responsabilité. Est-ce que dis, va, puis marche avec moi, puis tu n'auras plus de problème, ça va être tout beau, tout le monde va se convertir, tout le monde va te suivre. Il dit, non, le contraire. Il dit, va, ça, c'est ta responsabilité. Puis le résultat, le succès ou l'insuccès, ça dépend de moi, dit le Seigneur. Si je m'en servir pour le jugement, pour le salut, pour la délivrance, pour la condamnation, ça, c'est de mes affaires. Toi, sois responsable. Proclame mon nom, obéis, et laisse le Seigneur la responsabilité du résultat. Dans l'année difficile de la mort du roi Ozias, Ésaïe, prophète à la cour du roi, était affligé. Mais il a fait la rencontre bouleversante et revitalisante de Dieu. Et par la suite, il a été capable d'interpeller le peuple, interpeller à se confier en lui. Ozias est mort, mais il y a eu un autre bon roi du temps du prophète Ésaïe, le roi Ézéchias, un très bon roi qui a grandi aussi. Il a influencé ce roi-là. Et il est devenu un grand écrivain avec, comme j'ai dit, le livre le plus cité dans le Nouveau Testament après les psaumes. Il encourageait son peuple, je pense à Ésaïe 26, verset 3, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. » La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Ils ont interpellé son peuple à s'approcher de Dieu, à lui faire confiance. Dans notre ère, dans notre génération qui est de plus en plus hostile aux valeurs chrétiennes, dans nos vies qui sont de plus en plus influencées par le monde et par ses valeurs, on a besoin de rechercher nous aussi une nouvelle rencontre bouleversante, revitalisante avec Dieu. Donnons à Dieu la possibilité de nous rencontrer personnellement, de toucher à nouveau nos lèvres impures, de pardonner nos péchés, de nous transformer, puis de continuer à nous envoyer dans sa mission. On ne sera plus jamais des personnes pareilles. Notre Église ne sera plus la même, puis notre société va voir le Dieu que nous proclamons. Ésaïe disait à son peuple, et je vous le répète ce matin, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. » Or, que Dieu nous donne la même soif que Ésaïe avait de voir Dieu. Que Dieu nous donne la même expérience que Ésaïe a expérimentée, de voir Dieu, d'être transformé par lui, puis d'être envoyé, revitalisé dans le plan de Dieu pour sa société. Oh Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole, merci pour Ésaïe. Oh Seigneur, je suis jaloux de cette vision de Ésaïe qui a pu te voir dans ta gloire, dans ta puissance, dans ta souveraineté. Seigneur, donne-nous des yeux qui te voient. Et Seigneur, je réalise que dans ma propre vie aussi, combien j'ai besoin de confesser mes péchés, mes lèvres impures, ma passivité dans ce monde qui est aussi dans ce peuple qui a aussi les lèvres impures. Seigneur Dieu, pardonne mon péché, nos péchés. Touche nos lèvres. Et envoie-nous à nouveau, Seigneur, dans la mission que tu as pour nous, de proclamer ton salut, ta grâce, ta personne aux hommes. Oh, merci, Seigneur. Tu veux nous rencontrer. C'est toi qui nous invites. Venons et plaidons, dit l'Éternel. Accueille-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.